Merci beaucoup d'avoir abrégé votre pause déjeuner. Je me réjouis de voir autant de monde pour entendre parler du colonel Drian, alias le capitaine Danrit, le grand spécialiste de l'anticipation militaire française. Et pour ce faire, nous avons à ma gauche Monsieur Daniel David, directeur de recherche du CNRS en physique, auteur d'une thèse sur le colonel Drian qui a ensuite donné ce magnifique livre et qui est colonel de réserve. Voilà, donc un spécialiste en plus des choses militaires. Et sur ma droite, Mathieu Letourneux, qui est professeur de lettres modernes à l'Université de Paris 10 Nanterre et qui est un spécialiste du roman d'aventure et de la littérature populaire en général, 19e et 20e siècle. C'est cela. Alors, peut-être pour ceux d'entre vous déjà qui n'étaient pas présents hier après-midi à l'exposé consacré spécifiquement à la biographie du colonel Drian. Monsieur David, vous pouvez peut-être nous résumer en 5 minutes. Je sais que c'est un exploit, mais en 5 minutes les grandes dates et les faits marquants de la vie du colonel Drian.
Bien sûr, cher monsieur, mais auparavant, une toute petite mise au point. Vous avez présenté les personnes présentes. Nous sommes 3 apparemment à ce pupitre. Et en fait, je voudrais faire une petite modification. Nous sommes 4, même si le 4e est là sous une forme un peu spéciale. Le colonel Drian est là par l'intermédiaire de ses galons qui ont été prélevés sur son corps après la guerre et qui ont été sanctifiés en quelque sorte par un séjour d'une bonne dizaine d'années dans la terre de Verdun, là où il était tombé au bois des corps. Donc c'est ce que vous avez là, vous pourrez vous approcher tout à l'heure, le voir de plus près. C'est en quelque sorte un morceau de l'histoire de France. Les galons du colonel Drian sont là. C'est un peu comme s'il était là lui-même. Bien. Alors pour résumer rapidement son parcours, il était né en 1855. Autrement dit, au moment de la défaite de Sedan, il avait 15 ans en chiffres ronds. Et le spectacle de l'armée allemande passant devant la maison de ses parents aux alentours de Reims a engagé toute sa vie pratiquement. Et il appartenait à cette génération qu'on a appelée la génération de la revanche. D'où son engagement personnel militaire comme officier d'active. Bon, il a fait Saint-Cyr, il a eu des débuts en Lorraine au fort de Liouville qui est tout près d'ici, dans les Hauts-de-Meuse, et ensuite il a passé un certain nombre d'années en Tunisie avec un parcours un peu compliqué puisque c'est en Tunisie qu'il a commencé sa carrière militaire en écrivant un grand roman intitulé « La guerre de demain » où il y a beaucoup d'anticipations, parfois un peu fantaisistes, mais enfin, c'est ce qui l'a lancé en littérature. Et puis, surtout en Tunisie, il a été l'officier d'ordonnance du général Boulanger qui commandait la division d'occupation de Tunisie. Ils ont sympathisé tant et si bien que, je résume au maximum, tant et si bien que Drian, qui était capitaine à l'époque, a épousé l'une des filles du général Boulanger, Marcel Boulanger, puisqu'il Boulanger avait eu 2 filles, Marcel et Hélène. Ils se sont mariés à Paris, à Saint-Pierre-de-Chaillot. Il est devenu, à son corps défendant, le gendre de Boulanger, ce qui ensuite lui a causé le plus grand tort. C'est bien que, contrairement à ce que certains parfois m'ont laissé entendre, s'il avait voulu faire un calcul en épousant la fille de son général, il serait vraiment tombé à côté. Ce séjour tunisien assez long a été entrecoupé par un passage à Paris où il a suivi Boulanger quand celui-ci a été ministre de la guerre, puis un deuxième passage au gré des affectations alors qu'il était marié. Et il a été capitaine instructeur à Saint-Cyr, puis il est revenu une troisième fois en Tunisie. Boulanger, déjà à ce moment, n'était plus dans l'actualité. La famille Drian, bon, c'est tout à fait ancrée dans la Tunisie, notamment en y faisant construire des maisons, j'en disais un mot hier. Mais d'ores et déjà, les difficultés sur le plan professionnel commençaient pour Émile Drian, parce qu'il était catalogué donc, comme le gendre de Boulanger, et c'était à une époque où commençait déjà le tri dans l'armée entre les officiers dits républicains et les autres qui ne l'étaient pas, et ça concernait notamment tous ceux qui affichaient des sentiments catholiques, ce qui était le cas de la famille Drian. La carrière de Drian était mal partie, et il a eu une dernière affectation tout à fait prestigieuse, puisque de 1901 à 1905, il a commandé à Troyes le premier bataillon de chasseurs à pied, qui était une unité d'élite. Mais en 1905, jugeant sa carrière définitivement compromise, c'était en plein l'époque de l'affaire des fiches, animé entre autres par le funeste général André, qui ensuite nous a coûté tellement cher indirectement. Donc Drian a démissionné de l'armée en 1905. Il a dit qu'il avait d'ailleurs à ce moment ses annuités et qu'on allait l'envoyer dans une garnison lointaine aux ordres d'un colonel qui avait reçu pour mission de l'achever. Bref, il a quitté l'armée et il s'est consacré au journalisme et à une carrière de polémiste, toujours bien sûr dans des mouvements nationalistes, patriotiques tout simplement, et d'imprégnation catholique. Il a été élu député de Nancy en 1910, mais entre 1905, son entrée dans la vie civile, et 1910, il a continué à publier de nombreux romans avec une nette connotation d'anticipation scientifique adaptée à l'armée. Et il a également beaucoup écrit dans la presse et prononcé un peu partout des conférences dont, heureusement, les manuscrits nous ont été conservés. En 1910, il a été député de Nancy. Son action a continué dans une période extrêmement difficile pour le pays, puisqu'à partir de 1911, le réarmement, plus exactement le développement de l'armée allemande, a pris une accélération considérable. Et à tel point qu'on prévoyait, si la France ne réagissait pas, qu'à l'échéance de 1914, par exemple, le rapport des forces en effectif entre l'Allemagne et la France serait de 17 contre 10. Drian s'est beaucoup engagé à la Chambre en tant que député pour des mesures destinées à combattre cette évolution qui allait nous mettre dans un état d'infériorité complète. Ça s'est manifesté, concrétisé notamment en 1913 par ce qu'on appelait la loi de 3 ans. Faute de pouvoir augmenter massivement la démographie française en quelques années, un pis-aller était d'augmenter la durée du service militaire, si bien qu'une génération qui était partie pour faire 2 ans de service s'est retrouvée avec un service de 3 ans, et à l'arrivée, les hécatombes de 1914. On peut dire que cela n'avait pas eu beaucoup de chance. Bon, à la déclaration de guerre, Drian faisait partie des ce qu'on a appelé les députés combattants. On ne pouvait pas mobiliser les députés pendant les séances de la Chambre. Alors, les parlementaires avaient imaginé, dès le début de la guerre, de mettre la Chambre en session permanente jusqu'à la fin des hostilités, ce qui n'empêche pas que de nombreux députés se sont engagés. C'est ce qu'on a appelé les députés combattants, qui avaient cette double casquette d'officier et de parlementaire, ce qui déplaisait au plus haut point au haut commandement. Bon, je n'insiste pas sur ce point, Drian était l'un d'eux, mais enfin, il y a eu Bernard Garret, et il y a eu Abel Ferry, par exemple, qui lui aussi a été tué au front. Bon, toujours est-il que Drian, pendant la guerre, a pris le commandement d'un groupement de chasseurs à pied formé de 2 bataillons de chasseurs de réserve. Ces 2 bataillons étaient en ligne le 21 février 1916 au Bois des Corps, c'est-à-dire un peu au nord de Verdun, et le hasard a fait que ça a été juste au centre du secteur d'attaque allemand du 21 février. Le 22 février, le groupement de chasseurs était pratiquement exterminé. Il était complètement sur le plan tactique, c'est-à-dire qu'il n'était plus en mesure d'agir comme unité constituée. Il faut d'ailleurs dire qu'il n'y avait pas que les chasseurs de Drian dans cette zone. Il y avait également d'autres unités de part et d'autre. Mais les chasseurs de Drian, ça sonnait bien. Et puis, leur chef était très connu du fait de son engagement patriotique. Il a été tué le deuxième jour de l'attaque allemande, c'est-à-dire le 22 février 1916. Grâce en particulier à l'action de Maurice Barrès, il a été aussitôt promu héros national, ce qui était tout à fait justifié, mais d'autres chefs de corps ont eu le même sort. Et entre les deux guerres, Drian était une très grande figure de l'armée, du patriotisme. C'était un héros national parmi d'autres. Puis est venue la Deuxième Guerre mondiale, qui a effacé évidemment beaucoup de gloire de la Première. Le souvenir de Drian a été maintenu après 1966 par une promotion de Saint-Cyr, la promotion lieutenant-colonel Drian, donc, qui a été très active. Elle existe toujours. Je connais bien son secrétaire, le général Fournier. Et puis, il y a eu, si je puis dire, un relais du fait de la réalisation d'un travail universitaire initié par l'Université de Montpellier, que vous avez là sous les yeux, puisque ce livre, en fait, reprend ma thèse d'histoire pratiquement mot à mot. Donc, par cet enchaînement, le souvenir de Drian a été maintenu. Et évidemment, les commémorations de Verdun qui ont lieu en ce moment sont une occasion tout à fait remarquable de raviver ce souvenir. Drian a été mentionné dans des magazines récemment, dans l'émission Apocalypse de Verdun. Enfin bref, il y a en ce moment un retour de Drian dans la mémoire collective. Voilà. Vous y contribuez, nous y contribuons.
Ah, j'allais dire qu'en plus de ça, le colonel Drian n'est pas oublié des amateurs de littérature d'anticipation. Il n'a jamais été oublié. La preuve, c'est que beaucoup de gens sont ici présents pour entendre parler de son œuvre. Alors Mathieu Letourneux, peut-être avant qu'on aille plus avant, pour les gens qui ne sont pas tout à fait familiers de ce qu'on appelle la proto-science-fiction, c'est-à-dire la science-fiction d'avant la science-fiction, vous pouvez peut-être nous dresser un petit tableau de la place de la littérature de science-fiction dans la littérature française de l'époque et dans les littératures populaires et la place particulière qu'occupe le capitaine d'Henri dans ce tableau.
Oui, d'abord, un mot rapide pour citer quelques-unes de ses œuvres qu'on pourrait qualifier de façon un peu anachronique, mais le mot le dit lui-même, de proto-science-fiction. La guerre de demain, l'invasion noire, l'invasion jaune, la guerre fatale, la révolution de demain. Le mot de demain, répété comme ça dans plusieurs titres, nous indique bien le projet de Denry qui consiste à décrire des événements anticipés. On est donc dans une littérature d'anticipation. On le compare souvent à Jules Verne. Une des grandes différences entre Denry et Jules Verne, c'est que Jules Verne ne propose jamais de littérature d'anticipation, puisque le temps de la fiction est toujours un temps au passé. On l'oublie tout le temps, mais les récits sont toujours des récits au passé. Hein. Ils donnent des dates, et les dates sont toujours antérieures au moment de l'écriture, même quand on a des éléments anticipés dans le récit. Chez Denry, ce n'est pas la même chose. Hein. On est vraiment dans une littérature d'anticipation. Mais néanmoins, le lien entre Denry et Jules Verne, il tient à la nature du récit, et en particulier au public qui est visé. Ce sont des ouvrages qui étaient des ouvrages à destination de la jeunesse, essentiellement, publiés chez Flammarion en livre d'étrennes. Et régulièrement, il y a des adresses aux destinataires, donc aux lecteurs visés par Denry. Et ce sont des jeunes lecteurs, hein, jeunes enfants, etc. Jeunes soldats, souvent, sont des futurs soldats. Voilà. Le lecteur de Denry, c'est le futur soldat. Par exemple, au terme de la guerre de demain, il fait cette adresse au lecteur. Quand arrivera la guerre de demain, bientôt, je veux l'espérer, pars avec confiance, petit soldat. Voilà, le lecteur de Denry, c'est ce futur soldat qui ira faire cette guerre que Denry appelle de ses voeux. Donc, Denry propose un roman éducatif, et un roman éducatif qui, pour lui, a une signification très forte. Il s'agit d'éduquer les générations futures à se préparer à un événement majeur, la guerre à venir, la guerre que tout le monde en France attend, et ça a été dit tout à l'heure, hein, tout le monde en France attend, depuis 1870, en un sens, c'est cette revanche qu'une partie des Français appellent de leur vœu. Voilà un peu la situation de Denry. Pour comprendre aussi ce que ça signifie que cette littérature de la revanche, il faut comprendre que les romans d'anticipation, qui sont donc des romans de guerre future, des récits d'exploits de soldats, etc., fictionnels, ces romans interagissent avec toute une série de récits, hein, de récits d'autres genres, mais qui entrent en résonance. Vous avez les récits des provinces perdues, qui racontent les malheurs des Alsaciens à l'époque. Vous avez les récits de la guerre de 70, les récits militaires de la guerre de 70, qui racontent comment l'armée française s'est battue vaillamment et comment les Allemands, eux, utilisaient des moyens injustes de guerre, puisqu'ils étaient tous plus ou moins espions. Et vous avez aussi dans la presse quotidiennement des articles qui parlent de la situation à l'Est, de ce que fait l'Allemagne, etc. Il y a une obsession, vraiment, une obsession d'un conflit à venir, et le pays vit dans cette ambiance de guerre à venir. Et c'est cette guerre que tout le monde évoque, que, en un sens, d'Henri va concrétiser fictionnellement dans ses récits.
Bon. Et la science-fiction en général dans la littérature de l'époque
La science-fiction, ce qu'aujourd'hui on rassemble comme science-fiction correspond en fait à des réalités assez différentes. Hein. À l'époque, l'imaginaire du public, par définition, n'est pas structuré autour de cette idée de science-fiction. Quand on parle d'un roman à la Jules Verne à l'époque, on ne parle pas d'un roman qu'aujourd'hui on identifierait comme de la science-fiction. On parle indifféremment de tous les romans de Jules Verne, et c'est le roman d'aventure. Jules Verne est identifié avant tout comme un auteur de romans d'aventure. L'idée vraiment de l'anticipation formalisée et autonome, ça va s'imposer quand Wells va arriver en France, va être traduit, et là, d'un seul coup, on va vraiment identifier ce champ comme un champ autonome. Mais à l'époque, en fait, ce que nous, on identifie de façon un peu anachronique comme de la science-fiction, c'est perçu par les contemporains soit comme de la littérature fantastique, soit comme du roman d'aventure, soit un petit peu des deux, mais la cartographie des imaginaires n'est pas celle d'aujourd'hui. Et c'est logique quand on y pense, hein. On ne pouvait pas se dire qu'on faisait de la science-fiction avant que l'idée même de science-fiction soit inventée.
Et donc, au sein de cette littérature d'aventure au sens très large du terme, donc on vient de le dire, le capitaine d'Henrit a une place très particulière parce qu'il est en fait le seul théoricien, quelque part en même temps, des nouvelles... Il y a en plus des esprits qui manifestent en même temps. Oui, donc le capitaine d'Henrit occupe, comme vient de le dire Mathieu Letourneau, une place très particulière parce qu'il prépare déjà les guerres futures. Et effectivement, ce qui est frappant lorsqu'on lit un certain nombre des romans du capitaine d'Henrit, c'est de voir toute cette réflexion sur les nouvelles techniques de guerre et les nouvelles technologies. Pouvez-vous nous en parler? Parce que ça, c'est très frappant.
Oui, une remarque amusante pour commencer. Comme nous vous le disions, son premier roman, très volumineux d'ailleurs, et qu'il l'a lancé, très volumineux, il l'a intitulé « La guerre de demain ». Bon, très bien, mais il s'est beaucoup référé dans ses écrits à ceux du général allemand von Bernhardi. Traité en deux gros volumes, ça n'avait rien à voir avec la littérature pour la jeunesse, mais Bernhardi a intitulé son gros traité « La guerre d'aujourd'hui ». C'est assez curieux parce qu'on sentait que des deux côtés de la frontière, que ce soit pour demain ou pour aujourd'hui, on était en pleine évolution, mais ça allait finir par certainement par tourner à l'affrontement. Bien, alors en ce qui concerne les anticipations, c'est le mot effectivement qui convient de ce qu'a écrit d'Henrit, on peut distinguer une évolution très nette entre les premières anticipations telles qu'on peut les trouver par exemple dans la guerre de demain. C'est un peu échevelé, on trouve par exemple dans ce roman le ballon lenticulaire Capazza. Capazza était l'inventeur, formé de deux cônes opposés par la base, avec un système de soufflet entre les deux. Alors si on dilate le soufflet, on écarte les deux cônes, et par la poussée d'Archimède, le ballon tend à monter. Au contraire, si on rapproche les deux cônes jusqu'à les amener en contact, c'est calculé de telle sorte que le ballon descend. Donc le ballon Capazza ferait une trajectoire en zigzag, des remontées verticales suivies de longues descentes en obliques. Bon, évidemment, c'est tout à fait fantaisiste. Bon, mais au fil de ces romans, on a vu les anticipations évoluer et on pourrait très bien suivre la pensée de l'auteur, par exemple, dans des romans comme L'Alerte, qui est un combat par anticipation entre la France et l'Allemagne. Les habitants d'un village français pensent que la guerre est déclarée et ils entreprennent de faire eux-mêmes leur propre guerre. Ça y est, c'est parti, nous n'attendons pas l'ordre de mobilisation, nous y allons nous-mêmes en faisant sauter une voie ferrée allemande. Mais c'est une erreur, puisqu'en fait c'est une fausse information, et on voit là déjà des engins tout à fait modernes, et en particulier l'avion à décollage vertical. Bon, mais c'était dans l'air, malgré tout, c'était dans l'air, et je ne vais pas passer en revue toutes les anticipations des romans de Drian devant vous, mais on peut quand même voir une évolution. D'abord, il faut dire également que cette période de l'entre-deux-guerres 70-14 a été extrêmement féconde dans ce domaine, parce que les progrès scientifiques laborieusement acquis jusque vers le milieu du 19e siècle, ça a continué ensuite, pour la première fois, ont donné lieu à des applications pratiques qui modifiait considérablement les conditions de vie de la population et évidemment les procédés de guerre. Cela a été relativement nouveau. La période de l'entre-deux-guerres 70-14 a vu un glissement du scientifique vers le technique, avec toutes les conséquences pratiques que cela pouvait avoir. Alors si on veut continuer le propos en allant jusqu'à l'un des derniers romans de Drian, qui s'appelle « L'aviateur du Pacifique », c'est la guerre entre les Américains et les Japonais. Il l'a situé, c'était pas génial, mais c'était quand même une préscience intéressante, il l'a situé à l'île de Midway, qui, comme vous le savez, a été le théâtre de l'une des grandes batailles aéronavales pendant la dernière guerre, où les Américains ont réussi à stopper l'avance japonaise à Midway. C'est à partir de là que le reflux japonais a commencé. Donc, Drian imagine à Midway un fort défendu par les Américains. Il faut quand même que la France ait quelque chose à faire dans l'histoire. Eh bien, le fort est commandé par un officier français. Et la liaison sera prise avec la côte ouest des États-Unis au moyen d'un avion construit dans le fort de Midway, qui ira assurer la liaison donc avec le continent américain et qui sera lui aussi, bien sûr, piloté par un Français qui, comme par hasard, ça tombe bien, est originaire de Nancy. C'est curieux. Bon, voilà. Mais alors, il y a quelque chose de très intéressant dans cette affaire, c'est que dans ce fort de Midway, on est à la fin de la pensée d'anticipation de Drian. Dans ce fort de Midway, il y a ce qu'on appelait l'usine dans les ouvrages Maginot, c'est-à-dire que le fort, dans ses parties souterraines, comporte un atelier extrêmement puissant, extrêmement bien outillé, qui assure la manœuvre des tourelles, l'éclairage des projecteurs, la climatisation, tout ce que l'on veut, et qui est suffisamment bien outillé pour construire de toutes pièces un avion, celui qui va partir assurer la liaison avec les États-Unis. On part donc de vision quand même assez rudimentaire, par exemple au fort de Liouville, et puis par une gradation progressive, on arrive à ce fort de Midway qui a dans ses profondeurs ce qu'on appelait l'usine dans la terminologie Maginot, ce qui est intéressant puisque finalement la ligne des ouvrages n'est pas très éloignée d'ici. L'usine Maginot, c'est un atelier avec machines, outils, outillages de toutes sortes. Eh bien, il y a dans l'aviateur du Pacifique une très belle gravure, pleine page, qui représente justement l'atelier en plein travail. L'un des soldats américains porte, et c'est lourd, l'hélice de l'avion. À l'arrière-plan, on aperçoit le fuselage en construction. On est passé là, progressivement, d'anticipation très fantaisiste, comme celle du fort de Liouville, à des visions tout à fait modernes, comme celle que je viens de vous décrire. Alors, bien sûr, il faut porter ça au crédit de Drian, je ne cherche pas à diminuer son mérite, mais c'est intéressant aussi parce que ça montre que dans l'entourage, il n'était pas seul, cet homme, il avait forcément un entourage, des gens avec qui il dialoguait, qui le conseillait. Ça montre qu'en fait, ceux qui réfléchissaient à des évolutions de ce genre étaient en avance sur la pensée officielle de l'époque. Il y a là quelque chose qui me paraît intéressant. Il n'était pas tout seul sur son île déserte à rêver et à trouver, à avoir des illuminations géniales d'un seul coup. Ça montre qu'il y avait malgré tout une pensée militaire française qui prévoyait quelle allait être l'évolution, et on était quand même avant la guerre. Je crois qu'il y a là quelque chose qui doit être signalé. Oui. Et ensuite, on peut trouver une gradation progressive entre ses premiers romans et ses derniers romans, avec notamment l'apparition de l'avion à décollage vertical muni d'une hélice supérieure à axe vertical. Donc l'avion décolle, mais c'est en même temps un compromis de l'avion et de l'hélicoptère.
C'est tout à fait intéressant. Mathieu Le Tourneux, je crois que le capitaine d'Henri, aussi dans certains de ses romans, s'est penché sur aussi les nouvelles techniques de communication. Il a été l'un des premiers, je crois, à penser à l'utilisation de la radio et même de la télévision pendant la guerre.
Oui, on est toujours frappé avec des auteurs comme Robida ou d'Henri de voir apparaître des objets qu'on perçoit comme étant des anticipations de création future. C'est le téléphonoscope chez Robida et c'est le téléphonographe chez d'Henri, qui sont tous les deux des sortes d'anticipations de la télévision. En réalité, ce sont des éléments qu'on rencontre aussi dans la presse, dans ce qu'on appelle la petite presse, c'est-à-dire la presse comique, etc. C'est des choses qui étaient dans l'air du temps, des inventions qui étaient dans l'air du temps, d'autant plus que généralement, on voit bien que c'est au moment où s'invente aussi le cinéma, etc. Et donc que la question de la transmission de l'image est une question de la reproduction de l'image est une question qui intéresse l'époque. En fait, les inventions de Denry, les choses qui l'intéressent réellement comme invention, ce sont quand même les inventions militaires, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que d'abord, il raconte des récits qui sont des récits de guerre, hein, de la première à la dernière page. Ce sont des très gros romans, hein, des romans qui font parfois 1000, 1200 pages. Hein, c'est du roman feuilleton, hein, enfin du roman en livraison, mais ça revient au même. Et puis, c'est ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la mise en scène de la guerre avec un vrai goût des descriptions de bataille et un vrai goût de la violence de la guerre. Hein. C'est un auteur qui est caractérisé en tant qu'écrivain, que romancier, par sa passion de la guerre. Et donc, les machines de guerre qu'il invente, ce sont des super explosifs, des armes chimiques, des armes biologiques, etc., avec toujours une description des milliers de morts, parfois des centaines de milliers de morts, et une vraie passion pour les scènes d'hécatombe, on peut le dire comme ça. Hein. Dans l'invasion jaune, il dit, par exemple, il décrit des pyramides de 180 000 têtes tranchées. Donc c'est de la vraie hécatombe. Dans l'invasion noire, il évoque 1000 km² de corps brûlés, 3 millions de squelettes noircis. On voit quand même qu'il y a quelque chose comme un goût de la mort collective un goût, en tout cas un fantasme, quelque chose qui est de l'ordre de la fantasmatique de mort chez Denry, qui est tout à fait qui est une chose tout à fait étonnante et qui lui est pas propre uniquement. Il y a ça a été étudié à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a une fascination pour ces idées de guerre collective, d'affrontement de peuples, de races, etc. J'ai un peu dérivé
Non, mais justement, c'est tout à fait intéressant parce que je me faisais la réflexion en vous écoutant, Mathieu Letourneux. Bon, Tamerlan avait déjà fait les pyramides de têtes bien avant.
Oui, c'est une référence. Il dit précisément qu'il y en a deux fois plus de têtes. C'est encore mieux.
Mais je vais passer la parole à M. David qui, je pense, doit avoir une approche un peu différente parce que peut-être, Capitaine Denry était un homme de son temps et il avait ses idées. À l'époque, moi, ce qui m'a frappé, vous le soulignez d'ailleurs à un endroit dans votre livre, justement en référence à l'invasion noire, où Denry invente la guerre des gaz, et effectivement, c'est l'hécatombe générale. Il y a cette description extraordinaire de ces tapis de corps qui s'étendent à l'infini. C'est pas non plus, malgré tout, pour tempérer peut-être un peu ce que vient de dire Mathieu Letourneux, il n'y a quand même pas, malgré tout, il y a la description, peut-être aussi parce que pour le lecteur, il faut quand même le choquer un petit peu. En même temps, on ne peut pas dire que ce soit du triomphalisme total. C'est pas on vient d'exterminer les indigènes et on est bien content.
J'ai une citation à ce propos, juste une. C'était appliqué à l'homme l'extermination telle qu'elle est pratiquée vis-à-vis des animaux nuisibles, les mulots et les vers blancs. Il parle des Noirs et des Arabes qui ont été tués jusqu'au dernier.
Je crois qu'il y a une autre citation que vous mettez dans votre livre. D'ailleurs, c'est pour ça que je
note. Il y en a beaucoup, là, je ne vois pas de laquelle vous parlez. Je l'ai certainement dans la tête.
Moi l'avantage, c'est que c'est tout frais parce que j'ai potassé votre livre pour préparer cette table ronde.
Non, mais c'est un fait que dans ces romans, il y a beaucoup de scènes de violence qui ne sont pas, si je puis m'exprimer ainsi, piquées des hannetons. Il n'y avait pas de main morte. Vous citiez l'invasion noire qui se termine par l'extermination massive des troupes fanatisées d'un sultan africain. Elles sont arrivées sous les murs de Paris et là on arrive à les exterminer par des gaz asphyxiants lâchés par ballon. C'était vraiment une extrémiste, oui, votre citation.
Et voilà, c'est votre citation. Oui, enfin, vous voyez, à partir d'ici.
Un immense charnier humain apparu tellement hideux, oui, c'est ça. L'inventeur, le responsable de cette attaque par des gaz est pendu par ballon. Est un certain monsieur Gauthier. A-t-il existé? Je ne sais pas. La citation, un immense charnier humain apparu, tellement hideux, tellement terrifiant dans son prodigieux étalage, que monsieur Gauthier, l'inventeur, l'artisan de toutes ces ruines, accoudé pensif sur le rebord de la nacelle, n'eut pas un mot de triomphe. On pourrait faire un parallèle, ça me vient à l'instant, je ne l'ai pas mis là, avec les deux bombes atomiques. Est-ce qu'ils ont sablé le champagne en revenant à l'aérodrome de Tignan quand les B-29 sont revenus, j'en sais rien. Je me plais à penser que les équipages ont lâché leurs bombes parce que le sujet est complexe. Enfin, on peut dire qu'ils étaient dans le mouvement. Est-ce qu'ils ont trépigné de joie? Va les savoir. En tout cas, personnellement, je ne le sais pas. Bon, mais ce roman s'appelle L'invasion noire. Il en a fait un autre, L'invasion jaune. Et là, celui-là est beaucoup plus pessimiste. Alors, atrocité épouvantable commise par ce que dans les romans de Black et Mortimer, on appelle les jaunes. Eh bien, là, au contraire, l'invasion jaune parvient à submerger les pays européens. Et alors, je cite de mémoire la fin de ce roman. Alors, comment ça, une ère de destruction, une massacre effroyable qui acheva ce qui restait de la civilisation blanche. Je vous livre ça à vos réflexions, je ne veux pas faire dévier la discussion en changeant complètement d'époque. Enfin, néanmoins, et on peut convenir qu'il avait une singulière préscience. Alors, en ce qui concerne les scènes de violence, alors là, on donnait dans l'échelle industrielle. Mais enfin, il y en avait également qui n'étaient pas mal. Et en particulier, je vous parlais de Midway, l'avion qu'on a construit dans les dessous de l'ouvrage, dans l'usine, va partir. Comment va-t-il partir? On a construit un plancher de madrier. D'où l'avion en question va décoller par un... Bon, on doit le catapulter plus ou moins, je ne sais pas, mais enfin, alors que tout est prêt pour que l'avion en question parte et rejoigne les États-Unis, nouvel assaut des Japonais, bon, le fort se défend avec succès, et quelle tombe épouvantable, hein. Il y a des corps de Japonais partout, et naturellement, on balance tout ça à la mer, on ne va pas les enterrer dans le rocher où est le fort. Bon, mais tout de même, le plancher de madrier d'où devrait partir, d'où va partir l'avion est entièrement inondé de sang japonais. Ça pose un problème technique. Alors que faire? Eh bien, un Américain dit négligemment, laissez, le sang est un lubrifiant, il aidera au décollage de l'appareil. Voilà, d'ailleurs, ça avait commencé dans la guerre de demain. Nous sommes au fort de Liouville, le commandant du fort ordonne une sortie. Le soldat Dupont refuse d'y participer en disant qu'il est malade. Il est immédiatement condamné à mort, on va le fusiller dans l'une des galeries de l'ouvrage. Je cite, une quadruple détonation roula sous les voûtes. Il y avait un quart d'heure tout au plus que Dupont s'était déclaré malade. Il ne l'était plus.
C'est vrai que ça n'est plus le reflet de nos réactions d'aujourd'hui, hein, il faut bien le dire. Mais alors, Mathieu Letourneux, bon, vous avez dit tout à l'heure que les ouvrages du capitaine d'Henri étaient des gros cartonnages, etc., destinés d'abord à la jeunesse, mais je suppose qu'il y avait aussi un public adulte qui lisait le capitaine d'Henri. J'aimerais savoir un petit peu quelle était, justement, pour replacer dans le contexte de l'époque, quelle était la réception des ouvrages du capitaine.
Bon, c'est de la littérature populaire et de la littérature de jeunesse, donc il y a une réception qui n'est pas très importante. Les articles qu'on rencontre, on les rencontre surtout dans les publications catholiques, hein, qui voient un auteur prêt à former les générations futures et à moraliser la jeunesse. Hein. C'est un écrivain, de toute façon, qui défend les valeurs du catholicisme, qui s'oppose violemment au socialisme, à la franc-maçonnerie et aux juifs. Il est très anti-Dreyfusard. Hein. Il le dit.
C'est pas tout à fait ça. Il dit je m'en remets au jugement des tribunaux militaires.
Le nom de Saladin, comme celui de Dreyfus au siècle précédent, était devenu le synonyme de traître. Donc il est anti-Dreyfusard.
Oui, moi je me rapporte. Je me réfère plutôt. Bon, je ne dis pas.
Non, c'est faux. Il est antisémite. Enfin,
Attendez, s'il vous plaît. La querelle des anti-Dreyfusards et des Dreyfusards, c'est maintenant assez ancien.
Je m'étais posé la question.
On est dans c'est le contexte de l'époque, et je pense qu'il y a eu des gens encore plus violents d'un côté comme de l'autre à l'époque. Dieu merci, c'est derrière nous. Donc, on abandonne cette querelle-là. Et on passe sur le reste. au reste.
D'accord. Mais bon, passons sur son antisémitisme. C'est pas, de toute façon, c'est pas la question. C'est vrai que, comme beaucoup de militaires de l'époque, il a vécu l'affaire Dreyfus comme une dégradation du statut de l'armée à l'époque. Et donc, il associe très clairement dans son discours, chaque fois qu'il parle des socialistes, il les associe. Il associe étrangement le socialisme aux journaux tenus par les juifs. Donc l'internationale socialiste est une internationale juive. Il le dit, hein, il le dit mot à mot. Ceux qui lui avaient, il parle des ministres socialistes et il dit, il répondit à peine car il les méprisait tous. Ceux que lui avaient imposé les socialistes, les ministres, non, puisqu'ils savaient leurs journaux payés par les juifs et la haute finance.
Avez-vous pris ces citations dans ces romans ou dans ces archives?
Oui.
Ben oui, mais moi, je me réfère aux archives personnelles,
oui,
à ces textes de conférences et à ces interventions à la Chambre. Pas
oui,
à ces romans, en l'occurrence.
En tout cas, dans ces romans, pour dire les choses clairement, l'invasion noire, c'est le projet, l'histoire de l'invasion noire, c'est le peuple d'Afrique va envahir l'Occident et tuer tous les Blancs. L'invasion jaune, c'est le peuple asiatique va envahir l'Occident et tuer tous les Blancs. Dans l'invasion jaune, les jaunes arrivent à le faire et donc tous les Blancs disparaissent. Dans l'invasion noire, les peuples d'Afrique n'y arrivent pas. Et donc, le projet est un projet de inverse, puisqu'il dit le continent noir va changer de couleur au terme du récit. C'est-à-dire qu'il va devenir blanc. Autrement dit, on a exterminé les Noirs. Donc, l'idée de Denry, qui est une idée assez étrange, c'est que la guerre à venir sera une guerre des races, que ce soit les jaunes et les blancs, les noirs et les blancs, ou même dans la guerre fatale, les Irlandais et les Anglais. Il dit à un moment, si les Irlandais perdent la bataille, les Anglais vont les exterminer. Donc il y a une vision étrange d'un conflit des races qui, pour lui, tient très clairement au problème associé à un parlementarisme faible, incapable de prendre des décisions politiques fortes. Il est pour un régime qu'on pourrait qualifier de régime militaire qui saurait restaurer l'armée. En tout cas, dans ses romans d'anticipation, c'est le projet politique qu'il propose au terme du récit, un projet dans lequel, au terme de l'invasion noire, un régime dictatorial ne comportant plus ni électeurs ni élus. Voilà le projet politique du capitaine Denry.
Mais je crois, vous me direz si je me trompe, mais il me semble, pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Mathieu Letourneux, c'est qu'il y a des conflits de race. Effectivement, l'invasion jaune, on est dans l'époque des débuts du péril jaune, etc. Mmh. Mais il me semble que le capitaine Denry a mené la France en guerre contre à peu près tout le monde, parce qu'on
se
bat aussi contre les Anglais, contre
les
Allemands.
Je connais la boutade mort à tout le monde. Mais il est certain qu'en raison du nombre de ses romans, j'ai dit approximativement une vingtaine, il a été obligé de ne pas tout faire dans l'optique de la future guerre franco-allemande. Alors il s'en est beaucoup pris aux Anglais, mais il faut se replacer dans l'ambiance de l'époque. Et il était en particulier très lié à Baratier. Baratier était l'un des deux capitaines de la mission Marchand. Et vers 1915, par là, enfin, il s'était présenté, ou il avait envisagé de se présenter à l'Académie française. Il avait fourni, à l'appui de cette candidature, la liste de ses ouvrages, de ses livres. Et sur cette liste, c'est intéressant, il avait barré de sa main la guerre fatale, c'est-à-dire la guerre entre la France et l'Angleterre, en expliquant, il faut comprendre que quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas du tout la même opinion que maintenant sur l'Angleterre. J'avais dans l'esprit les récits que m'avaient fait Baratier, Marchand, et Mangin. Puisque Mangin était l'autre capitaine de la mission Marchand. Donc, je n'avais pas du tout la même vision que maintenant. Donc, les trois officiers que je viens de citer sont allés jusqu'à Fashoda. Baratier, de son côté, a beaucoup écrit sur la mission Marchand. Mangin a beaucoup écrit après la guerre. Il dit, j'ai entièrement changé d'avis. L'Angleterre, à l'heure actuelle, pendant la guerre, se conduit comme une grande nation. Oubliez ce livre. Donc, il était capable de faire marche arrière, de se rendre compte. Bon, cela étant dit, j'en parlais hier dans ma causerie, je me suis référé essentiellement, les romans, ce n'est pas une source négligeable, mais je me suis référé essentiellement à ses articles de presse et à ses interventions à la Chambre, et puis également, et ça c'était inestimable, à ses textes de conférences, puisqu'il a prononcé beaucoup de conférences entre 1905 et 1910. J'ai par exemple, enfin la famille a, mais j'en ai la reproduction, tout le texte de sa conférence, La France en Afrique, Et il est certain que si on veut savoir ce qu'il pensait effectivement, il faut se référer à ses textes, La bataille moderne, La France en Afrique, La révolution est fatale. Bon, il y en avait quelques autres de ce genre, soit dactylographié et annoté de sa main, soit entièrement manuscrit. J'en ai montré, malheureusement, là on ne voyait pas très bien parce que l'écran était trop lumineux. Bon, mais là on a vraiment ce qu'il pensait. Et c'est une question que je me suis posée inévitablement. En me disant, bon, ces romans, bon, c'est ce qu'ils sont, hein, c'est la guerre dans toutes ses configurations, il fallait bien trouver des ennemis, il a passé à peu près tout le monde en vue, c'est exact, mais enfin, finalement, que pensait-il dans la réalité, que pensait-il? Eh bien, pour ça, il faut se référer, encore une fois, à ces articles de presse, parus essentiellement dans le quotidien L'Éclair, donc à ces textes de conférence, que heureusement, ils ont été conservés, et à ses interventions à la Chambre. Et c'est là qu'il avait dit à la Chambre, notamment, dans un dialogue, c'est dans les comptes rendus des débats parlementaires, c'est là qu'il avait dit à Jaurès, par exemple, « Je crois à votre sincérité, mais vous êtes dans l'erreur. Au lieu de faire l'hypothèse préalable d'une armée française vaincue, ne commencez pas par faire en sorte que cette défaite devienne inévitable par la quasi-suppression de l'armée active que vous prônez. » Ça n'est pas exactement le mot à mot, mais ce qui est mot à mot, je crois à votre sincérité, mais vous êtes dans l'erreur. Ça, alors là, bon, on peut penser que c'était quelque chose. C'était son point de vue sur Jaurès. En revanche, en ce qui concernait l'anarchiste Hervé, c'était je le ferai fusiller sans pitié si jamais il me tombe sous la main au moment de partir à la frontière. À voir d'ailleurs que Peggy, j'ai dû le dire hier, or Peggy, la mémoire de Peggy est honorée, écrivain catholique, tué dès les premiers combats. Peggy, ami de Jaurès au moment de l'affaire Dreyfus, Peggy par la suite, à l'approche de la guerre, a dit à la mobilisation, il faudra commencer par fusiller Jaurès, nous ne partirons pas au front en laissant derrière nous un traître qui nous poignardera dans le dos. C'est du Peggy. Alors que Drian, après tout, lui disait « Je crois à votre sincérité, mais vous êtes dans l'erreur. » Donc vous voyez que le sujet est très vaste, très riche.
Oui, et là, nous débordons un petit peu de celle-ci. Et moi, je voudrais qu'on revienne maintenant, mais je crois que c'était quand même utile de confronter les points de vue et les appréciations sur les opinions du colonel Drian. Cela, c'est le colonel Drian et non plus le capitaine Danrit, vraiment. Mais il y a un aspect qu'on a peu abordé, que j'ai découvert dans votre livre.
C'est une mine.
Et c'est une autre partie de ce qui a été écrit par le capitaine Danrit dans sa littérature. C'est ce que j'appellerais, et c'est des fois confondu avec la littérature dans mais moi, c'est ce que j'appellerais plutôt l'histoire secrète, parce que j'ai découvert que c'était aussi un grand admirateur de Napoléon. Donc, il était très plongé là-dedans. Et il a écrit des livres comme Évasion d'Empereur, etc., qui, là, sont plus concentrés sur la personne de l'empereur.
Oui.
Donc, vous pouvez nous en dire peut-être un mot, Mathieu Le Tourneux.
Oui, donc Évasion d'Empereur, il imagine que une troupe de Français réussit à faire évader Napoléon et donc le sauve un temps, hélas, pas jusqu'au bout, mais c'est une sorte de, en effet, de... Pas vraiment d'histoire contrefactuelle, puisque la suite, le cours de l'histoire n'est pas altéré, mais une bulle imaginaire au sein de l'histoire, c'est ce que vous appeliez l'histoire secrète, en effet, c'est-à-dire un événement historique qui aurait été occulté. Mais il me semble que ce qui est important, c'est de comprendre comme, en fait, ce roman historique imaginaire répond directement aux guerres futures. C'est-à-dire qu'on est dans un imaginaire, en effet, d'une remilitarisation fantasmatique, c'est-à-dire soit d'un modèle bonapartiste, qui aurait pu exister dans le passé, c'est la tentation contrefactuelle de Évasion d'Empereur, soit une remilitarisation à venir dans les guerres futures. La vraie question, finalement, c'est pas de se dire est-ce que Danry était un quelqu'un de sympathique ou d'antipathique, est-ce que aujourd'hui ce qu'il écrivait nous paraîtrait monstrueux, ou est-ce que ses mérites par ailleurs font que ça s'explique. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est fondamental avec un auteur comme ça, c'est que il faut se poser la question des raisons pour lesquelles une époque a fait naître ce type de texte. Comment une génération ou deux générations de Français ont vécu dans une sorte de bain culturel conduisant naturellement, et c'est pas que les Français, vous l'avez très bien dit, les Allemands à la même époque ont des textes du même genre, et les Anglais aussi, des récits de guerre future, imaginaire, etc. Il y a vraiment un fantasme qui naît d'une culture, disons, d'une culture masculiniste, liée aux rêveries de l'aventure coloniale, aux rêveries du roman d'aventure, à la constitution, à l'éducation des garçons, etc., et une transformation d'un nationalisme né au XIXe siècle qui devient un nationalisme viscéral à la fin. Et tout ça s'articule pour produire une sorte de surchauffe au moment où les colonies sont presque toutes... où le monde est presque entièrement colonisé, où on sent qu'il y a une surchauffe et donc une sorte de marche collective à un imaginaire de la guerre qui fait qu'il y a ce mouvement où finalement quelqu'un comme d'Henry peut appeler cette guerre collective, cette guerre globale, peut appeler en termes d'un récit de ses voeux cette guerre, cet holocauste généralisé. Et ça c'est intéressant quand même, il ne s'agit pas de dire qu'il a tort ou raison, il s'agit de comprendre ce qui a existé à une époque. Et je pense qu'un des traits de l'anticipation de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle correspond précisément à cet imaginaire d'une technicisation de la violence et à ce mouvement de l'aventure, de l'avenir, le mouvement vers l'avenir, adouénéré, l'aventure. L'aventure, c'est aussi une marche vers l'avenir et une marche de la violence vers l'avenir. Et je pense que d'Henry en est l'illustration.
Monsieur David.
Je vais d'ailleurs abonder dans votre sens. Les romans de Drian ont connu un tirage absolument considérable. Ça paraissait en livraison hebdomadaire dans des journaux, également en petit volume broché dans le format INSEES. Alors un gros livre comme La guerre de demain faisait, je ne sais pas combien de volumes, enfin un très grand nombre, mais surtout, il y avait les belles éditions format Grand Inuit, en cartonnage illustré, un cartonnage, une toile peinte par-dessus, ce sont ceux les plus beaux, les plus recherchés. Or, ces éditions, c'est ce qu'on appelait à l'époque les livres d'étrennes. Et en connaissant le soin avec lequel la jeunesse était éduquée, à l'époque, on ne peut pas dire que la jeunesse donnait dans la licence, elle était soigneusement surveillée par ses parents.
On imagine par la Bethléem.
Oui, on imagine mal qu'on aurait donné aux enfants, à l'occasion de Noël ou du jour de l'an, des ouvrages douteux suivant les critères de l'époque. Eh bien, c'était les livres d'étrennes, au même titre que les Jules Verne ou les Paul d'Ivoy. Nous n'avons pas parlé de Paul d'Ivoy, mais c'était tout à fait la même chose. Pour vous donner quelque chose de quantifiable, une collection de Jules Verne, toujours dans cette même présentation, dite des livres d'étrennes, donc Grand Inuit. Une collection de Jules Verne, c'est 47 volumes, dans ce qu'on appelle les volumes doubles, et en pratique, si on veut avoir une belle collection, il faut monter facilement à une soixantaine. Enfin, le chiffre de base, Jules Verne, 47 volumes. Paul d'Ivoy, dont nous n'avons pas parlé, c'est la série des voyages excentriques, même type de présentation, à peu près avec les cartonnages. Très intéressant parce qu'il est allé plus loin, beaucoup plus loin que Drian dans l'anticipation, et en particulier, Paul d'Ivoy a introduit la radioactivité, dont Drian n'a pas parlé. Il anticipait Drian, mais quand même pas aussi loin que cela. Bon, donc Paul d'Ivoy, 21 volumes. En réalité, il faut en rajouter facilement une demi-douzaine. Je n'entre pas dans les détails bibliophiliques. Drian, un peu moins que Paul d'Ivoy. Un peu moins que Paul d'Ivoy. Mais malheureusement, on ne peut pas constituer avec les romans de Drian les mêmes présentations bibliophilique sur des rayonnages de bibliothèques que la masse énorme constituée par exemple une soixantaine de Jules Verne. Ça. Bon, pour Drian, il y a eu une présentation homogène de 6 volumes parus chez Flammarion, toujours le même type de présentation, et puis il y en a eu chez d'autres éditeurs, si bien que entre 15 et 20 volumes suivant les éditions des Drian, malheureusement, ne permettent pas de réaliser les mêmes groupements de cartonnage, c'est le terme consacré, que pour les deux autres auteurs. Mais encore, je reviens, j'insiste sur ce point, c'était des livres d'étrennes, ce qui montre bien l'opinion que les parents avaient en offrant pour les étrennes, des romans de ce genre, à leur progéniture, les romans, fussent-ils le cas échéant, producteurs de scènes d'atrocité particulièrement violentes. C'était des livres d'étrennes. Ce qui dit bien ce que ça veut dire à une époque où on ne plaisantait pas avec l'éducation de la jeunesse.
Ouais. Moi, ce que je constate, c'est qu'avec nos deux intervenants, l'heure a passé très très vite. Je trouve que c'est un tribut au talent littéraire du capitaine Norit que plus d'un siècle après l'écriture de ses derniers ouvrages, il puisse encore soulever autant de passion et d'intérêt. Et avant de rendre le micro, je pense que si on a le temps pour peut-être une ou deux questions, s'il y en a.
Oui, alors vous imaginez bien que je ne sais pas s'il y a un micro.
Non, mais
vous imaginez bien que votre voilà. C'est pas terrible. Donc vous imaginez bien que ce débat, enfin la table ronde là, moi m'a complètement passionnée, bien sûr. Alors je voudrais juste rebondir sur, je pense, cette notion de représentation, parce que derrière ce qu'a dit Mathieu, évidemment, il y a les représentations à travers ces types de romans, bien sûr, d'une époque. Donc l'antisémitisme en fait partie, mais il va courir quand même jusque dans les années, jusqu'à la fin des années 30, puisqu'on va retrouver dans les années 20, dans les années 30 également des termes antisémites sous la plume des romanciers. Donc ça, c'est quand même une réalité. Et l'Europe était antisémite aussi. Donc ça fait partie de l'époque. Par contre, ce qui est, moi, je trouve très intéressant, c'est cette notion de guerre totale. Donc je ne sais pas après ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai pensé à d'autres romans. Bon, d'abord, vous avez La guerre au XXe siècle d'Albert Robida, où là, on est plus, évidemment, sur la technologie. Et ensuite, il y avait quand même Je passe la Première Guerre mondiale. Il y a eu quand même 1925, l'apparition de deux romans, donc de Moselli, La fin d'Illa, où là, donc l'invention de la pierre zéro, par exemple, c'est une invention technologique, donc une arme de destruction massive. Vous avez également, toujours 1925, Ernest Perrochon, avec, alors là, des descriptions de massacres. Je crois que ça va certainement, je pense, au-delà peut-être de ce qu'a pu écrire donc le colonel Drian. Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'apocalypse totale. Et puis, il y aura l'apocalypse de Régis Messac. L'autre bord politique, évidemment, par rapport au colonel Drian, qui, dans Queens and Zazili, en 1934, va évidemment anticiper aussi sur, peut-être, effectivement, l'explosion de bombes nucléaires. Vous voyez, donc, je pense que là, on est vraiment sur une filiation, hein, véritablement une veine littéraire. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, Mathieu.
Oui, les récits de guerre future, c'était vraiment une veine littéraire qui a été très importante. On en compte, moi j'en ai compté une centaine en France, hein, uniquement en France. Il paraît qu'il y en a autant en Angleterre, en Allemagne. J'en connais peu dans les domaines anglais et allemand, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors il y a des grandes différences d'un auteur à l'autre. Hein. Robida, c'est la guerre, c'est une satire de la guerre. Enfin vraiment, Robida était un anti-moderne. Hein. Toutes ses anticipations sont des farces. Hein. Son but. Oui, oui, mais les textes qui accompagnent, chez Robida, l'écriture est ironique. Donc l'enthousiasme est toujours fin chez Robida. C'est le livre auquel Robida a participé, qui est plus ambigu, mais qui est lui-même, à mon avis, que je soupçonne quand même d'être satirique, c'est celui qu'il a fait avec Giffard, La guerre infernale. Où là, on a aussi un imaginaire, mais en fait, à la fin, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Et donc, chez Robida. L'enthousiasme pour la technologie est toujours à lire de façon ironique. C'est un auteur de la petite presse. Les auteurs de la petite presse écrivent très souvent par antiphrase. Donc, quand il dit « c'est formidable le téléphonoscope », il s'en moque. Pour lui, c'est une catastrophe. Quand il dit la possibilité de voyager très vite, il s'en moque, il trouve que c'est horrible. Lui, ce qu'il aimait, c'est la culture du Moyen-Âge. Robida, c'était un fou de culture du Moyen-Âge.
Mathieu Letourneau, désolé, mais je crois qu'on va, parce que Robida, c'est passionnant, mais on va proposer à Stéphanie Nico un débat sur Robida pour l'année prochaine. Je crois que ça s'impose, mais là, l'heure tourne. Monsieur David, si vous avez peut-être un dernier mot de commentaire sur ce que vient de dire Madame Vasder.
Ah oui, certes, on peut s'interroger en effet sur ce que pensait effectivement Drian. Vous parliez par exemple de l'antisémitisme, je vous cite une phrase, je m'étais posé la question, hein, après tout, c'est la question sanglante entre toutes, et il avait écrit, mais pas dans un roman, hein, il y avait peu d'antisémites dans l'armée à cette époque, donc quand il y était, et pour ma part, ami de deux blocs et d'un Valabrec, je ne l'étais pas du tout. Bon, c'est intéressant parce que ça m'a permis de citer gentiment la source, effectivement, c'était toujours dans les papiers de famille. Bon, donc, pour moi, l'affaire était réglée. Mais qu'il ait, en revanche, qu'il ait pu donner des connotations différentes dans des romans, ça c'est tout à fait possible. Bon, d'une part. Maintenant, en ce qui concerne l'ensemble de son œuvre, je crois qu'il faut en effet se replacer dans l'atmosphère de l'époque et qu'on n'aurait pas eu le mouvement d'ensemble de toute la population et de l'armée qui s'est produit en 14 s'il n'y avait pas eu une communauté d'esprit qui poussait les gens, finalement, à s'engager. On n'a pas du tout vu en 40 ce qu'on avait vu en 14, par exemple. Donc, ce qu'il a écrit correspondait au souhait de toute sa génération, au culte des provinces perdues et à la conviction de chacun que ça ne pouvait pas s'éterniser comme ça et qu'il fallait recouvrer ses provinces. Desroulettes avait dit, je crois que c'est Desroulettes qui l'a dit, j'hésite en Desroulettes et Barrès, peut-être Barrès. Il avait dit, dans la vie, je n'ai jamais tenu qu'à une chose essentielle, le retour à la France de Metz et de Strasbourg. Ça indique un état d'esprit. Cet état d'esprit était partagé par la nation tout entière. C'était la génération de la revanche. Il est sans doute difficile de nos jours de se remettre exactement de la disposition d'esprit de cette génération de la revanche, mais le résultat était là. On a vu évidemment qu'elle a payé très cher son engagement, mais on n'aurait pas obtenu cet engagement s'il n'y avait pas eu une adhésion profonde qui s'est manifestée de toutes sortes de façons, et en particulier sous des plumes comme celle de Drian, mais il n'était pas le seul. Quand j'étais adolescent, je me suis régalé des livres des frères Marguerite, une époque sur le récit romancé de la guerre de 70, où leur père avait été tué.
Ce sera aussi un autre débat, monsieur David, là, parce que je vois l'heure qui tourne. Et puis je pense... Alors, simplement, c'est toujours frustrant, évidemment, même en deux interventions, on n'a fait qu'effleurer le sujet du capitaine Norit. Alors, je signale pour les gens qui sont intéressés qu'ils peuvent prendre des petits prospectus ici à propos d'une journée d'études organisée par l'Association des Amis du Roman Populaire, ceux qui éditent le Rocambole, qui s'intitule « Capitaine d'Henri, le Jules Verne militaire », et c'est à Nancy le vendredi 3 juin. Donc ceux qui sont intéressés peuvent venir prendre les petits prospectus ici. Je crois qu'il ne nous reste qu'à
jeter
remercier...
Jeter un coup d'œil sur les galons.
Voilà, il ne nous reste qu'à...
On les sort rarement de leur coffre-fort.
Voilà, et donc... Venez admirer les galons, il ne nous reste qu'à remercier nos deux intervenants pour cette discussion passionnante.